BW. Vue d'Allemagne.
L'Allemagne fait partie des pays qui ont abaissé l'âge du droit de vote à 16 ans, 16 comme le pourcentage de voix obtenu par le parti d'extrême droite AfD auprès des 16-24 ans aux élections européennes. Comment expliquer cette tendance? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Et parce que rire fait du bien, on vous emmène ensuite en Turquie à la rencontre d'artistes de stand-up. Ils commentent l'actualité et les aléas de la vie à coups de blagues, sans aucun tabou. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue. Comme de nombreux lycéens, Gloria, Joyce et Anaya ont voté pour la première fois aux élections européennes dimanche 9 juin. Au lendemain du vote, elles ont été choquées par les résultats. Chez les jeunes de 16 à 24 ans, le parti d'extrême droite AfD arrive en deuxième position avec 16% des suffrages exprimés, soit 11 points de plus qu'en 2019, derrière les conservateurs de la CDU-CSU qui obtiennent 17%.
Je savais déjà que les résultats peut-être vont être ainsi, mais j'avais toujours l'espoir qu'il y aura la majorité de la population qui vont voter pour le côté gauche. Voir que c'est surtout les jeunes de notre génération qui votent pour la droite, c'est vraiment triste et vraiment, ça fait peur pour l'avenir.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée que les gens de 16 ans obtiennent le droit de voter, parce que les résultats ont montré que les gens de ma génération, dont de 16 ans à 24 ans, ont beaucoup voté pour la droite, ce qui me choque. Et je suis aussi très déçue parce que je croyais que nous savions mieux, mais apparemment pas. J'ai l'impression que ma génération a très pris cette élection à la légère, et cela va avoir un impact négatif sur l'Europe.
Alors une petite précision avant de donner la parole à Anaya, ce que Gloria et Joyce appellent la droite, c'est en fait la droite populiste ou l'extrême droite, l'AfD donc. En allemand, on l'appelle « die Rechte », d'où la confusion en français.
Je trouve que c'est assez inquiétant de me dire que ce sont les jeunes générations qui vont grandir et rester sur cette planète encore bien des années, qui sont en train de s'extrémiser de plus en plus.
Frank Greuel, quant à lui, n'est pas vraiment surpris des résultats des élections européennes. Selon le chercheur à l'Institut allemand de la jeunesse, DJI, la tendance était déjà repérable lors des dernières élections régionales en Bavière en 2023. Ce qui l'a en revanche davantage étonné, c'est l'ampleur des pertes du parti écologiste Die Grünen. En 2019, les Verts allemands avaient obtenu 34% des voix chez les 16-24 ans. Cette fois, ils ont fait 11%, soit une perte de 23 points.
Jusqu'à présent, il y avait toujours un taux d'approbation élevé parmi les jeunes pour les Verts, donc pour un parti qui est centré sur les questions socio-écologiques et qui est globalement progressiste. Et là, on voit que l'approbation a rapidement chuté et qu'elle va désormais au parti conservateur, voire à l'AfD en tant que parti populiste de droite.
Alors comment expliquer ce revirement? Pour Henriette Heimbach, chercheuse en sciences politiques à l'Université du Luxembourg, la dégringolade des écologistes est notamment liée au contexte qui a changé depuis 2019.
C'était un autre moment dans le temps, parce qu'il y avait ce mouvement des Fridays for Future qui était très présent et il n'y avait pas des crises comme la pandémie et aussi la guerre en Ukraine. En même temps, les jeunes sont déçus des Verts parce qu'ils sont depuis 2021 au gouvernement. À leur avis, ils n'ont pas beaucoup changé en direction de la protection du climat, par exemple. Et ça joue aussi sur leur vote.
Il y a 5 ans, les jeunes étaient majoritairement inquiets de la crise climatique. 5 ans plus tard, les préoccupations ont changé. Les jeunes sont désormais inquiets pour leur avenir, notamment économique. Autant de peurs sur lesquelles l'AfD sait surfer, explique Frank Greuel.
Le discours est toujours le même. Soit les partis de l'actuel gouvernement, c'est-à-dire le SPD, les Verts et le FDP, veulent tout changer et sacrifier la prospérité au profit d'un tournant écologique. Soit la prospérité de l'Allemagne est gravement menacée par l'immigration. Ce sont les deux motifs principaux.
Avec des partis établis qui ne réussissent pas à présenter des solutions satisfaisantes d'un côté et de l'autre un parti AfD qui présente des solutions apparemment simples, les jeunes trouvent des réponses rassurantes, explique encore Frank Greuel. Un avis que partage la politologue Henriette Heimbach. Selon elle, le succès de l'AfD n'est pas seulement le résultat d'un vote de contestation de la part des jeunes.
Ils pensent aussi que l'AFD peut faire une bonne politique pour eux. Ça c'est intéressant parce que les études ont montré que c'est la première fois qu'il y a une majorité des jeunes qui ne font pas seulement cette vote pour contestation, mais qui pensent aussi vraiment que l'AFD peut changer leur vie pour le mieux. Et je crois que ça c'est aussi inquiétant parce que les réponses de l'extrême droite sont faciles à comprendre et ne sont pas à la hauteur des questions de société complexes.
Pour Henriette Heimbach, comme pour Frank Greuel, le succès de l'AFD est également lié à sa forte présence sur les réseaux sociaux.
L'AFD y est vraiment beaucoup plus présente et cela commence par le nombre d'abonnements sur YouTube et se termine par TikTok où Maximilian Krahe, le candidat principal pour les élections européennes, s'adresse également aux jeunes de manière ciblée, en vidéo. Il est là en tant que personne, il les regarde dans les yeux et leur parle. C'est unique, cela n'existe ni chez les Verts, ni chez le FDP, le SPD, la CDU, la CSU. Tous ces partis ont certes des chaînes TikTok, mais ils n'atteignent pas autant de jeunes. C'est une différence marquante quand on sait qu'aujourd'hui, les jeunes s'informent notamment via TikTok sur la politique. Un parti qui s'adresse directement à eux, c'est un signe d'estime qu'ils ne reçoivent de la part d'aucun autre parti. Et c'est quelque chose que, je le crains, leur plaît beaucoup.
Selon Frank Greuel, les partis établis auraient tout intérêt à améliorer leur communication, mais aussi à s'intéresser sérieusement à la jeunesse. Un tiers des électeurs de 16 à 24 ans ont voté pour des petits partis, un signe que beaucoup d'entre eux cherchent des réponses dans les programmes et ne cèdent pas uniquement aux sirènes populistes. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et comme promis, on part en Turquie. Depuis quelques années, dans les grandes villes, les stars du stand-up s'adressent à un public toujours plus large. La génération montante de comédiens aborde des tabous sociaux et politiques dans une société qui peine à recréer du lien commun, et ce, après une décennie particulièrement éreintante politiquement. Tentatives de coup d'État, montée de l'autoritarisme et difficultés liées à la crise économique. L'humour devient alors l'antidote à une atmosphère politique morose. C'est un reportage de Marie Tillon et Céline Pierre Magnani à Istanbul.
Avec son épaisse moustache et sa dégaine d'adolescent, l'humoriste Deniz Göktaş, 30 ans, est devenu la coqueluche du milieu du stand-up en Turquie. Depuis 3 ans, il arrive désormais à en vivre. Et ce soir, il se produit pour la 4e fois sur les planches du théâtre Ses, au lieu de la comédie à Istanbul. Une heure et demie de spectacle au cours duquel il brosse avec tendresse un portrait de sa société, avec parfois une pointe de tristesse. L'entrée au Parlement des islamistes radicaux, les espoirs politiques déçus de la gauche, les violences sexuelles ou encore l'autocensure du milieu artistique. Esgui, ingénieur de 37 ans, l'a découvert il y a un an et depuis, elle est fan.
Je suis tombée sur des extraits de son spectacle sur Instagram et j'ai adoré. J'ai regardé une première, une deuxième, une troisième fois. Depuis un an, je le suis un peu partout quand il se produit ici ou à Ankara.
En prise avec les problématiques de sa génération, Deniz Göktaş aborde entre autres les représentations de la sexualité et la question du consentement. Un sujet rare dans une société très pudique sur ces thématiques. Alors il contourne le problème et raconte le viol supposé d'un bidon d'eau. Pour Alperen, étudiant de 19 ans, cette blague est devenue une référence dans son groupe d'amis.
La blague que je préfère de Deniz Göktaş, c'est celle du bidon d'eau. J'étais mort de rire. Il parle de l'intégrité physique du bidon. Avec mes amis, ça nous fait toujours rire et on refait tout le temps cette blague entre nous.
La montée de l'autoritarisme dans le pays ces dernières années n'est pas étrangère au succès de ce type de comédie en Turquie. Pour Hakan, ingénieur de 27 ans, le stand-up constitue un échappatoire de choix dans un contexte politique morose.
Plus il existe une pression politique, plus les gens essaient de fuir et tentent de trouver des fenêtres pour respirer. C'est déterminant dans le développement de la comédie et de l'art en général, je pense.
Dans les coulisses, Deniz reprend ses esprits avant de remonter sur scène pour la deuxième représentation de la soirée. Pour lui, le rire a une fonction sociale et il n'hésite pas à parler de thérapie de groupe. Il explique les ressorts de son succès.
Politiquement, les gens ont besoin d'entendre ça. Mais à la télévision ou dans les autres médias, c'est un peu difficile d'aborder certains sujets en Turquie. Les gens n'osent pas. Alors, les représentations donnent cette opportunité. C'est plus politique, moins censuré. Mais ça ne concerne pas uniquement la politique d'ailleurs. Le stand-up a offert la possibilité de parler de sexualité ou d'autres sujets qu'on n'aborde pas ouvertement en Turquie. C'est ça qui fait son succès.
Tous les comédiens et les acteurs du secteur sont formels. C'est grâce à la société de production Tous Biber que le genre du stand-up a pu se développer ces dernières années. Une vingtaine de salariés y travaillent et gèrent un portefeuille de près de 70 comédiens pour des représentations dans les grandes villes de Turquie, mais aussi à l'étranger. Enes Uysal, l'un des cofondateurs, ne rate aucun des spectacles qu'il programme. Lui, qui a découvert Deniz Göktaş, ne quitte pas son poulain des yeux.
Historiquement, on constate que la comédie connaît ses plus grands succès dans les périodes de crise. Charlie Chaplin se fait connaître après la guerre, par exemple. Dans les années 90, aux États-Unis, le stand-up est au plus bas car l'économie va trop bien. C'est ma petite théorie. Et puis, avec la pandémie, si la popularité du stand-up a explosé dans le monde, c'est aussi grâce au rôle de la plateforme Netflix qui en a beaucoup diffusé ces 10 dernières années.
La théorie d'Enes s'applique parfaitement au cas de la Turquie. La crise économique affecte gravement les foyers modestes et les classes moyennes ces dernières années. Alors en spectacle ou sur YouTube, le stand-up s'est imposé comme une activité de détente accessible au petit budget. Mais dans une atmosphère politique tendue, aborder des sujets sensibles peut facilement conduire au tribunal.
Deux de nos amis ont eu des procès. L'une d'entre elles, c'est Pinar Fidan. Le problème, c'est le nombre d'associations qui ont porté plainte contre elle. Elle avait fait une blague sur un courant minoritaire de l'islam, l'alévisme, et sur leur lieu de culte. Nous l'avons mis sur Internet et ça n'a pas plu.
Pour l'heure, les dates s'enchaînent et rien ne semble pouvoir arrêter Deniz Göktaş. Il se produit dans toute la Turquie, mais fait aussi salle comble à l'étranger, notamment dans les villes qui ont accueilli le plus de migrants turcs ces dernières années. Dans quelques jours, il s'envolera pour Berlin, Amsterdam et Londres, puis outre-Atlantique, à la conquête des scènes nord-américaines. Céline Piermagnani et Marie Tillon, à Istanbul pour Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon à ce micro. D'ici là, portez-vous bien et riez beaucoup. Tchuss!